Chapitre 6. Un espace important se dégageait à l'intérieur de l'être sessile. À l'extrémité opposée de ce passage, une trentaine de ganglions s'assemblèrent en une sphère d'environ 50 cm de diamètre. Puis ce globe se déplaça, et Richard vit à l'emplacement qu'il avait occupé une petite chose verdâtre reliée au reste du cocon par des centaines de minuscules filaments. Et cela croissait très lentement. Les ganglions avaient gagné 3 autres positions et pris chaque fois la même configuration sphérique, quand Richard comprit que c'était des pastèques-manes qui se développaient à l'intérieur du cocon. Il en fut sidéré. Il ne pouvait comprendre par quel miracle le mirmichat défunt avait pu pondre des œufs qui n'apparaissaient qu'à présent. Il a dû ne laisser que quelques cellules, des embryons microscopiques qui se sont développés. Puis il lui vint à l'esprit que les pastèques-manes croissaient à une vingtaine de mètres du point où la chrysalide s'était formée autour du mirmichat blessé. Le sessile les aurait déplacés, en retardant leur croissance de plusieurs semaines? La logique rejeta cette hypothèse et il échafauda une autre théorie. Cependant, il lui faudrait admettre que la biologie de ces êtres était encore bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Les pastèques-manes, les mirmichats et les sessiles sont peut-être différentes manifestations de la même espèce. Il consacra 2 périodes d'éveil à analyser ce qu'il avait vu dans le second habitat. Pendant que les 4 œufs se développaient de l'autre côté de l'espace dégagé, il reconstitua un cycle de métamorphose compliqué. Les pastèques-manes donnaient naissance aux mirmichats, et ces derniers fournissaient en mourant un apport de matière au cocon, qui pondait alors des œufs pour que tout puisse recommencer. Rien de ce qu'il avait vu n'invalidait cette possibilité, mais les questions se bousculaient dans son esprit. Il s'interrogeait, tant sur le processus de métamorphose, que sur les détours qu'avait dû suivre l'évolution pour arriver à un pareil résultat. Richard avait étudié ce qu'il appelait avec fierté les sciences dures. Mathématiques et physique étaient les piliers de son éducation. Tenter de comprendre le cycle vital de la créature au cœur de laquelle il était enchâssé depuis plusieurs semaines lui rappelait son ignorance en d'autres domaines. Il regrettait de ne pas avoir prêté plus d'attention à la biologie. Car comment peut-on faire œuvre utile si on ne sait pas par où commencer? Puis il se demanda si le sessile n'avait pas appris à interpréter ses pensées tout en lisant ses souvenirs. Quelques jours plus tard, il reçut de la visite. Un tunnel s'ouvrit à nouveau dans le cocon et 4 mirmichats lui apportèrent ses vêtements et lui firent signe de les suivre. Lorsqu'il voulut se déplacer, le sessile n'opposa aucune résistance. Ses jambes vacillaient, mais il put se vêtir et s'éloigner derrière ses guides. La fresque de la grande salle était inachevée, et pendant que son professeur lui désignait des tableaux, des artistes étaient toujours à l'ouvrage. Lors des premières leçons, une douzaine de créatures s'affairaient à dessiner et à peindre les panneaux suivants. Richard avait immédiatement compris que tout cela avait été créé afin de lui indiquer ce qu'on attendait de lui. Il était évident que les extraterrestres se savaient sur le point d'être exterminés par les hommes et voulaient lui fournir les informations dont il aurait besoin pour assurer le salut de leur espèce. Mais ces desseins suffiraient-ils? De temps en temps, Richard interrompait les activités de l'hémisphère gauche de son cerveau, chargé d'interpréter les messages pour permettre au droit d'admirer le talent des artistes. Ils travaillaient dressés sur leurs pattes postérieures et complétaient les esquisses ou la mise en couleur avec leurs 4 autres membres. Ils se parlaient, se posaient apparemment des questions, mais à voix basse, pour ne pas le distraire. La première moitié de la fresque était l'équivalent d'un manuel de biologie extraterrestre et lui apportait la preuve qu'il avait correctement interprété les indices. Sur plus d'une centaine de scènes, Deux douzaines illustraient les différents stades de développement des embryons des myrmichas, en complément des bas-reliefs de la cathédrale. Au-dessus et au-dessous de la ligne où était décrite l'évolution embryologique, il y avait des images pour la plupart incompréhensibles. Quatre de ces dessins explicatifs étaient par exemple disposés autour de la représentation d'une pastèque mâne dans laquelle aucun embryon ne se développait. Tout laissait à supposer qu'il s'agissait d'informations sur les conditions ambiantes nécessaires au déclenchement du processus de fécondation, mais elles se présentaient sous forme de vues de leur planète d'origine, des paysages de brume, de lacs, de flore et de faune. L'homme secoua la tête quand son professeur les lui désigna. Il y avait au-dessus de la fresque une échelle temporelle où étaient symbolisés des soleils et des lunes. Richard comprit que la vie des myrmichas était ridiculement brève par rapport à celle des Céciles, mais ce qu'il était censé en déduire lui échappait. En outre, les rapports numériques entre les différentes manifestations de cette espèce le déconcertaient. Une pastèque mâne ne donnait naissance qu'à un seul myrmicha. Aucune ne contenait plusieurs embryons dans ses dessins, à condition qu'elle fût dans un cocon. Mais combien dénombrait-on de myrmichas pour un Cécile? Un de ces derniers était représenté avec une douzaine d'embryons en son sein, tous à des stades de développement différents. Quel sens convenait-il de donner à cette scène? Richard dormait dans une petite pièce proche de la salle de cours. Les leçons duraient entre 3 et 4 heures, après quoi il était libre de manger ou de dormir. Lorsqu'il lui arrivait de jeter un coup d'œil aux peintures inachevées de la seconde partie de la fresque, la salle s'éteignait aussitôt, comme si ses maîtres tenaient à s'assurer qu'il avait tout assimilé avant de passer à la suite. Les artistes terminèrent leur travail en une dizaine de jours, et Richard fut sidéré lorsqu'il fut enfin autorisé à voir le reste. Humains et aviens étaient reproduits avec une extrême minutie. On l'avait représenté une demi-douzaine de fois, mais avec sa barbe et ses cheveux blancs, il faillit ne pas se reconnaître. « Je ressemble au Christ », songea-t-il avec ironie. Il avait devant les yeux un résumé de l'invasion de l'habitat extraterrestre par les humains. Il découvrait des détails absents du diaporama mental auquel il avait assisté dans le cocon, mais cela ne lui apprit rien de nouveau. Il fut simplement horrifié par l'ampleur du massacre. Il se posait à présent de nouvelles questions. Pourquoi n'avait-on pas transféré directement ces scènes dans son esprit, ce qui eût évité bien des heures de travail au peintre? Le Cécile n'est peut-être qu'un enregistreur privé d'imagination, uniquement capable de reproduire ce qu'a vu un myrmicha. Il apprit par les tableaux suivants ce que ses hôtes attendaient de lui. Il se voyait avec un gros sac à dos bleu doté de 4 grandes poches enflées par une pastèque mâne. Dans 2 autres poches de dimension plus modeste, il y avait un tube cylindrique argenté d'une 15 cm de longueur et 2 petits œufs d'avien. Ce qu'on lui demandait de faire était décrit selon un ordre chronologique. Il sortirait du cylindre brun par un souterrain débouchant dans la région verte, au-delà des constructions blanches et du canal. Ensuite, 2 aviens le guideraient jusqu'à la douve où l'attendrait une sorte de sous-marin de poche. Le submersible plongerait sous la paroi extérieure de l'habitat, traverserait une grande étendue d'eau et remonterait à la surface près d'une île où se dressaient de nombreux gratte-ciels. Richard sourit. La mer cylindrique et New York n'ont donc pas disparu, se dit-il. L'aigle n'avait-il pas déclaré que l'intelligence nodale ne ferait procéder qu'aux modifications strictement indispensables lors du reconditionnement de Rama? Ça signifie que j'y retrouverai notre refuge. Des images additionnelles complétaient les scènes de son départ, des informations sur la flore et la faune de la région verte, et une sorte de mode d'emploi du submersible. Quand Richard voulut copier ce qu'il jugeait le plus utile dans les mémoires de son ordinateur de poche, Son professeur manifesta une nervosité qui l'incita à se demander si la situation ne s'était pas brusquement aggravée. Le lendemain, après un long somme, on lui apporta le sac bleu, puis il fut reconduit dans l'antre du Cécile. Les Mirmichas allèrent prendre dans le cocon les 4 pastèques-manes qu'il avait vu croître et les placèrent dans les poches prévues à cet effet. Elles étaient lourdes et le lestaient en tout d'une 20aine de kilos. Un de ses guides utilisa ensuite un étrange couteau pour découper dans le Cécile un cylindre comprenant 4 ganglions et tous leurs filaments. Il plaça cet échantillon dans un tube argenté qu'il glissa dans une des petites poches latérales. On mit dans l'autre les œufs des aviens. Quand les Mirmichas lui désignèrent la sortie, Richard pensa « Le moment est venu de nous dire adieu. » Selon Nai Watanabe, le salut thaï appelé le Wai, une légère inclinaison du torse, main jointe sur la poitrine, était un geste universel. En souriant, Richard présenta ainsi ses respects à la demi-douzaine de créatures qui l'entouraient et fut extrêmement surpris de les voir réunir leurs 4 pattes antérieures devant leur bas-ventre et se pencher à leur tour. Le sous-sol du cylindre était désert. Les Mirmichas étaient nombreux, au niveau supérieur, mais ils n'en avaient plus croisé un seul depuis un long moment. Un faucheux fut envoyé en éclaireur. La petite créature mécanique courut dans le corridor et franchit la porte voûtée de l'issue de secours. À son retour, il grimpa se percher sur la nuque du Mirmichas, où il resta figé plusieurs secondes avant de redescendre. D'un geste, le guide de Richard lui indiqua que la voie était libre. 2 grands aviens s'envolèrent dès qu'ils le virent sortir du passage. Une de ces créatures avait une aile déchiquetée, comme par une rafale de balles. Richard progressait à présent dans une forêt modérément touffue d'arbres hauts de 3 à 4 mètres. Malgré la semi-pénombre du sous-bois, il n'avait aucune difficulté à suivre les êtres qui passaient constamment au-dessus de sa tête. On pouvait entendre des coups de feu sporadiques dans le lointain. Un quart d'heure plus tard, les taillis s'éclaircissaient. Richard venait de calculer qu'il disposait d'une 10aine de minutes pour être exact à son rendez-vous avec le sous-marin qui l'attendait dans la douve quand des rafales d'armes automatiques furent tirées à moins d'une 100aine de mètres de distance. Un de ses guides s'abattit sur le sol et l'autre disparut. Richard se dissimula dans un hallier en entendant des hommes venir dans sa direction.
« Un double collier, c'est sûr !» disait l'un. Peut-être même un triple. Bon sang, ça m'en fera 20 en une seule semaine. Merde, c'était bien trop facile. Il ne devrait pas compter. Il n'a même pas eu le temps de te voir. C'est son problème, pas le mien. Ses colliers ont autant de valeur que les autres. Ah, le voilà. Zut, il n'en a que 2.
Il n'était qu'à une 20aine de mètres de Richard, qui resta immobile plus de 5 minutes, n'osant pas bouger. Les soldats s'étaient arrêtés à côté du cadavre de leur victime pour fumer et échanger des commentaires sur cette guerre. Richard sentait son pied droit s'ankyloser. Il déplaça son poids afin de soulager les muscles, mais la douleur ne fit qu'empirer. Il baissa les yeux et constata avec angoisse qu'un des rongeurs représentés dans la fresque avait dévoré sa chaussure et s'attaquait à sa chair. Il décida de secouer sa jambe sans faire de bruit. Ce ne fut qu'un demi-succès. La bête lâcha prise, mais les militaires l'entendirent et approchèrent. Il ne pouvait fuir, car le poids du sac le ralentirait et ferait de lui une cible facile. Peu après, un des hommes hurlait
« Par ici, Bruce ! Je crois que quelque chose se planque dans ce bosquet !»
Il braqua son arme en direction de Richard.
« Ne tirez pas !» cria ce dernier. « Je suis un humain !»
Le deuxième soldat rejoignit son camarade.
« Qu'est-ce que tu fiches ici ?»«
Je me promène. »«
T'es dingue ou quoi ? Montre-toi tout de suite !»
Richard sortit lentement du sous-bois. Même dans la semi-pénombre, son aspect avait de quoi les surprendre, avec ses longs cheveux, sa barbe broussailleuse, ses vêtements en lambeaux et son gros sac à dos.
« Jésus-Christ, qui es-tu? Où est ton unité ?»«
Ce n'est pas un militaire, » fit l'autre homme. « On a affaire à un cinglé qui a dû s'échapper de l'asile d'Avalon et arriver jusqu'ici, j'ignore comment. Hé, connard, tu sais pas que ce coin est dangereux? T'aurais pu te faire... »«
Regarde ça !» l'interrompit son camarade. « Il transporte 4 gros melons !»
Une douzaine d'aviens fous de rage attaquèrent en piqué. Les deux hommes se retrouvèrent sur le sol et Richard détala. Un avien déchiquetait le visage d'un des soldats avec ses serres. Des coups de feu éclatèrent. Les militaires présents dans le voisinage venaient prêter main forte à leurs compagnons. Sans savoir où l'attendait le sous-marin, Richard descendit la colline aussi vite que ses jambes et son lest le lui permettaient. Derrière lui, il entendait des détonations et des hurlements d'aviens et d'êtres humains. Il atteignit la douve, mais ne vit pas le submersible. Des voix lui indiquaient que des hommes descendaient la pente. Il allait céder à la panique quand un petit cri s'éleva d'un buisson situé sur sa droite. Le chef aux 4 colliers cobalt prit son essor et passa au-dessus de sa tête, très près du sol, pour s'éloigner vers la gauche. 3 minutes plus tard, ils avaient localisé le sous-marin de poche qui plongea avant que les militaires n'aient eu le temps de le voir. Richard fit glisser son sac à dos et le rangea derrière lui dans l'habitacle exigu. Puis il se tourna vers l'avien et jacassa tant bien que mal 2 phrases très simples. Le chef répondit lentement l'équivalent de « Nous vous remercions ». Ils restèrent en plongée pendant un peu plus d'une heure. Au début du voyage, Richard regarda attentivement la créature piloter leur engin et prit des notes dans son ordinateur. Vers la fin du trajet, l'avien lui passa un court instant les commandes. Il s'interrogeait sur la signification de ce qu'il venait de vivre. Il eût bien aimé savoir pourquoi on n'avait pas chargé un Mirmichat d'emporter les pastèques, l'échantillon du Cécile et les œufs d'avien. « Il y a quelque chose qui m'échappe », conclut-il. Peu après, le submersible remontait à la surface et Richard se retrouvait en terrain familier. Les gratte-ciels de New York se dressaient devant lui. « Alléluia !» s'exclama-t-il en débarquant sur l'île avec son sac à dos. L'avien amarra le sous-marin près du rivage et s'apprêta à le laisser. Il tourna sur lui-même, puis s'inclina avant de prendre son envol et de s'éloigner vers le nord. Alors qu'il le suivait des yeux, Richard remarqua qu'il se trouvait à l'endroit précis où, bien des années plus tôt, à bord de Rama 2, Nicole et lui avaient attendu que 3 de ses congénères les emportent vers la berge opposée de la mer cylindrique.